Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, deux piliers de la civilisation. Black et Mortimer, c'est de la BD. Et l'œuf maillot, c'est de la gastronomie. On sera avec Laurent Mariotte. Et comme nous sommes vendredi, on va vous raconter l'actualité et les coulisses du sport business avec Sacha Nokovic du journal L'Équipe. Les dernières infos du matin, fraîches de la nuit au Qatar. Notre info média avec cette question. Comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-mêmes? C'est une question et c'est le titre d'un essai écrit par une spécialiste de la philosophie des sciences cognitives. C'est extrêmement documenté, pas manichéen, ça change. Et nous serons avec l'auteur de ce livre en direct dans l'émission, Elena Pasquinelli. Nos invités ensuite, Yvan Cassard et Louis Chédid pour un album hors norme en noir et blanche, duo inédit des grands standards de Louis Chédid, mais en version piano-voix. Ça donne quoi? Et bien vous allez entendre, même faire des comparaisons. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre rusé journal des médias.
Un nouvel épisode de notre feuilleton devenu quotidien dans ce journal des médias. Elon Musk et Twitter. Il sera aussi beaucoup question de nostalgie dans ce journal. Deux chaînes préparent l'anniversaire de deux programmes cultes de la télévision et on connaît quelques détails. Et puis le tournage au Qatar de journalistes de BFM TV perturbé. Et en fin de journal, deux infos qui montrent que la France rayonne à l'international.
Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3, le podium.
Vous me posez encore cette question, il faut me dire, après le foot...
Après le foot. J'imagine que c'est le Brésil qui était en tête.
Voilà, oui, c'est le match sur TF1, 5 870 000 téléspectateurs, 26% de part d'audience. Ça augmente encore pour TF1 hier soir par rapport au match de mercredi, hein, qui était à 5 400 000.
Voilà, c'était le Brésil-Ghana.
Serbie ?
Si je me souviens bien.
Non ? Qu'est-ce que c'est pas la Serbie ?
Je me souviens plus. Pour moi, c'était le Brésil hier soir.
Brésil-Serbie,
vous avez raison. Ouais. C'était Portugal-Ghana. Vous avez raison.
C'est parce que vous travaillez le soir. Vous pouvez pas regarder les matchs.
Vous voulez que je vous dise, j'ai regardé les deux d'un œil et j'ai un peu tout mélangé.
Effectivement.
C'est
un petit peu beaucoup.
C'est le drame du premier tour.
Désolé pour la Serbie. Ouais. Deuxième, c'est Envoyé spécial, encore en forme hier, qui a bien résisté face au match. 2 170 000 téléspectateurs. Donc Envoyé spécial qui bat à nouveau son record en nombre de téléspectateurs. Record qui était déjà battu la semaine dernière, record de 2022, 11,2% de part d'audience. Là, c'est pas un record sur la part d'audience. Et puis troisième, c'est la série... Non, pardon, M6 était deuxième. La série L'Homme de nos vies, 2 485 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 11,5% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
Ce petit bruit, c'est pour vous signaler qu'on commence avec la suite de notre feuilleton Elon Musk Twitter. Aujourd'hui, on apprend que les comptes suspendus sur Twitter ou de Twitter vont être rétablis par Twitter.
C'est une nouvelle décision d'Elon Musk prise suite à un sondage. Il a demandé aux internautes de voter pour ou contre le rétablissement de ces comptes suspendus, à condition quand même qu'ils n'aient pas enfreint la loi ou envoyé des spams de façon scandaleuse. 72% des votants ont voté pour. Alors Elon Musk a pris la décision de les écouter. Il a tweeté « Le peuple a parlé, l'amnistie commence la semaine prochaine ». Ça devient donc visiblement une habitude pour le nouveau patron de Twitter de procéder par sondage. La semaine dernière, c'est avec ce même procédé, rappelez-vous, qu'il avait décidé de rétablir le compte Twitter de Donald Trump, suspendu en janvier 2021, pour incitation à la violence lors de l'assaut du Capitole par ses partisans.
On passe aux actus télévision, on en sait un peu plus sur le projet de TF1 pour célébrer les 20 ans de la disparition de « Un gars, une fille ».
Générique culte, aussi culte que cette mini-série diffusée à l'époque sur France 2, juste avant 20h, qui mettait en scène Chouchou et Loulou, un couple joué par Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Alors il y a quelques mois, la chaîne avait annoncé son intention de la faire revivre cette série le temps d'une soirée. Nice Matin nous apprend ce matin que ce sont finalement deux soirées diffusées en prime. Elles sont actuellement en tournage. Alors vous ne verrez en revanche ni Jean Dujardin ni Alexandra Lamy. TF1 s'est donc tournée vers d'autres actrices et acteurs, 16 nouveaux couples, selon Nice Matin toujours, qui révèlent les noms de 5 d'entre eux. Alors il y aura Joe Star et Barbara Schulz, Elise Moon et Julie Debonat, Mathieu Madénian et Frédéric Bell, Olivier Marchal et Alessandra Sublet, rappelez-vous qui a arrêté l'animation pour être actrice, voilà,
ouais,
on y
sûr.
Est. Et puis enfin l'humoriste Inès Reg et son vrai mari dans la vie, Kevin Debonne. Chaque duo est en fait formé par des personnes qui ont des liens dans la vie, liens d'amitié ou d'amour en l'occurrence, ou professionnels. Ils ont souvent déjà joué ensemble, en fait. À noter qu'ils ne reprendront pas exactement les mêmes textes qu'à l'époque. Ils vont réadapter les sketchs pour les moderniser et puis se les approprier.
TF1 qui avait déjà piqué Les Inconnus à la 2 dans le genre nostalgie. On reste dans la nostalgie justement avec l'anniversaire d'un autre programme télé. M6 a tourné une émission pour célébrer la nouvelle star.
Les 20 ans de ce programme, car en mars 2003, les téléspectateurs entendaient pour la première fois ce générique.
Allez.
C'est celui de 2003 hein, que je suis allée rechercher. Alors contrairement à la Star Academy, vous ne verrez pas de nouvelle saison du télécrochet 20 ans après. M6 a simplement enregistré une émission anniversaire et pour l'animer, la chaîne a choisi Karine Lemarchand, alors qui n'avait jamais présenté le programme avant. Mais bon, cette fois-ci, ce sera le cas. Elle sera entourée de celles et ceux qui ont participé. Alors des membres du jury, ceux des saisons 2 à 5, Marianne James, Dovatia, André Manoukian et Manu Katché, jury emblématique. Hein. Et puis des candidats qu'ils sont tout autant, notamment Amel Bent, Julien Doré, Camélia Jordana, Christophe Willem, entre autres. Mais oui, tout ce monde-là vient de la nouvelle star.
Oui, je sais, mais ce qui est formidable, c'est qu'ils aient tous accepté de revenir.
Exactement.
C'est ça qui n'est pas facile
ça
à faire.
Ça a été enregistré. Et encore, je ne cite que quelques noms. Il y a, ouais. Y a ceux qui ont malheureusement un petit peu moins brillé derrière, qui seront aussi présents. Ce sera une soirée en musique, évidemment, mais aussi avec des magnétos, des archives des 9 saisons diffusées sur M6. L'émission anniversaire est prévue pour 2023.
Dans l'actualité également, le tournage d'une équipe de BFM TV au Qatar a été perturbé.
Des journalistes de la chaîne sont allés tourner un reportage dans des fan villages. Vous savez, ce sont ces logements qui ont été construits spécialement pour le mondial, des sortes de containers aménagés pour accueillir les touristes, les supporters. Alors si certains ont dit être très satisfaits, de nombreux autres supporters, eux, se plaignent de la saleté, de l'eau qui ne marche pas ou qui est marron quand on ouvre le robinet, de la climatisation hors service, à tel point que certains supporters préfèrent quitter ces logements. BFM TV a donc voulu recueillir des témoignages dans un de ces fan villages et ils ont filmé des ouvriers en train d'installer d'autres logements, mais ils ont été interrompus par un homme qui s'est présenté comme responsable du site.
Il nous emmène alors à l'abri des regards et souhaite voir nos images.
Vous pouvez supprimer cette image ? Non, désolé.
Il tente ensuite de nous intimider.
Ne créez pas de problème dans le pays, cela peut prendre des proportions énormes, vous n'avez pas idée. Les choses sont très tendues et vous passerez une mauvaise journée. Et je ne veux pas que vous passiez une mauvaise journée.
BFM TV, donc vous l'entendez, a quand même pu diffuser ses images et son reportage hier sur l'antenne.
Et j'ai vu la séquence, il était filmé en caméra cachée pendant qu'il essayait de récupérer les images.
C'est comme
et donc
ça qu'on
c'était...
peut l'entendre.
Voilà, c'est ça qui est formidable. Documentaire français qui a été primé au International Emmy Awards.
C'est une cérémonie américaine qui récompense la télévision internationale. Les enfants de Daesh, les damnés de la guerre, a été sacré meilleur documentaire. Il avait été diffusé en mai 2021 sur France 5. Et à l'époque, Philippe, vous aviez d'ailleurs reçu sa réalisatrice Anne Poiret ici même dans Culture Média. Alors c'était dans un documentaire qui s'intéresse au triste sort des enfants de Daesh, de l'État islamique, que ce soit ceux qui ont combattu car enrôlés de force ou ceux qui sont nés de parents combattants, des enfants qui sont stigmatisés en Irak depuis la fin de la guerre contre l'État islamique, privés de papiers d'identité ou d'accès à l'école notamment. Et si vous voulez voir ce documentaire, il est d'ailleurs toujours disponible en replay sur le site de France Télévisions.
Et puis un autre succès français d'un tout autre genre, c'est Vous qui m'avez appris son existence, celui d'un film français sur la plateforme Netflix.
Oh, y en a qui l'ont apprise bien, bien avant. Vous savez combien de vues ça fait ?
J'ai vu ça parce que j'ai votre texte. Mais sinon, j'aurais ignoré sans vous.
Ça cumule 43 millions d'heures de visionnage en 2 semaines, dont 24 millions en 3 jours, hein, selon les chiffres communiqués par la plateforme il y a quelques jours. C'est plus rapide que pour le premier volet qui avait lui aussi eu du succès et qui continue d'en avoir du coup depuis la sortie de la saison 2, du film 2, car ceux qui n'avaient pas vu le premier le rattrapent avant de regarder la suite.
Je crois que vous n'avez pas donné le titre.
Balle perdue. Oh bah non, je suis partie parce que
Balle
on est partie
dans... avec l'acteur Alban Lenoir.
Je faisais un petit suspense.
J'ignorais totalement
fait comme si c'était
leur existence, j'avoue.
Balle perdue. Bah, du coup, c'était le 2 avec l'acteur Alban Lenoir. Ouais, donc c'est en ligne depuis 2 semaines et c'est donc le film étranger le plus vu dans le monde sur Netflix. Il est même parmi les 10 films les plus vus dans 78 pays du monde. 43 millions d'heures de visionnage, je vous le disais. Et sachez qu'il y a déjà un troisième volet de prévu par Netflix, prévu avant même en fait le succès du deuxième. Netflix veut en faire la première franchise française Netflix, selon les mots d'une des dirigeantes de la plateforme.
Merci beaucoup Louise.
Balle perdue
bon
deux.
Et à lundi pour un nouveau journal des médias. Dans un instant sur Europe, notre info média du jour, une spécialiste de philosophie des sciences sociales et cognitives, son essai chez Odile Jacob, comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-mêmes, pour une fois qu'elle ne jette pas tous les écrans dans le même panier et l'eau acide. Elle sera avec nous à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Internet, les ordinateurs, les jeux vidéo et même la radio filmée. Merci à vous si nous vous écoutez et regardez sur europe1.fr. Nous passons de plus en plus de temps devant les écrans. Ils sont indéniablement en train de bouleverser notre façon de changer, notre manière de voir le monde. Mais modifie-t-il également notre façon de penser et notre façon d'apprendre? C'est la question que se pose une spécialiste de philosophie des sciences sociales et cognitives. Elle sort du clivage manichéen pour nous expliquer quels sont les bienfaits des écrans dans notre vie. Il y en a, mais aussi comment notre cerveau interagit avec ces images et ces informations qui arrivent de toutes parts. Comment, en revanche, lutter contre la cyberdépendance, les fake news? Comment nous, les médias, devons-nous prendre garde aux infos et images que nous diffusons? Enfin, comment accepter la technologie sans cesse plus puissante sans se retrouver perdu? Réponse donc avec Elena Pasquinelli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialisée en philosophie des sciences cognitives, membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale depuis 2018 et auteur de cet essai « Comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-mêmes ». C'est publié par les éditions Odile Jacob. C'est une traduction, à la base c'est un livre en italien qui a été traduit.
Exactement, c'était sorti en 2012 et on a dû essentiellement le refaire parce que la science dont on s'occupe dans ce livre, effectivement, va très vite, change très vite. Il fallait prendre en compte ce qui s'était passé dans ce temps.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous vous intéressez aux médias, mais du point de vue scientifique, vous faites par exemple quelque chose qui m'a vraiment frappé. Vous faites totalement la différence entre anecdote et statistique. L'anecdote, c'est ce que raconte votre pote au café du coin. La statistique, c'est scientifique. Et expliquez-nous cette différence cruciale.
Absolument. Effectivement, c'est un point très important. On a tous des opinions, vous l'avez dit en introduction, très fortes sur les écrans, souvent manichéennes. Ils sont le mal absolu ou ils ont notre voie de sauvetage pour le futur. Et on se base souvent pour se faire ce genre d'opinion assez assertive, assez forte, sur des anecdotes. Mon cousin, il m'a raconté que son fils, il passe 24 heures sur 24, il ne dort plus, il est tout le temps sur les écrans. Moi, je n'arrive plus à faire ceci et cela. C'est que les écrans m'ont complètement transformé, m'ont brûlé le cerveau, etc. On se base beaucoup sur les anecdotes parce que les anecdotes, ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas méchants en soi, ils sont séduisants. Les anecdotes sont des histoires et nous sommes friands d'histoires, qu'elles viennent du cinéma ou qu'elles viennent du copain ou qu'elles viennent d'un livre ou d'un écran. Nous sommes friands d'histoires et les histoires se mémorisent très facilement. C'est pour ça que les anecdotes ont cet énorme pouvoir. Des fois, elles sont vraies, des fois, elles ne le sont pas. Mais surtout, les anecdotes sont singuliers, sont personnels, c'est une histoire, c'est un cas. Les statistiques prennent en compte un beaucoup plus large panel de personnes sans le biais de « c'est mon copain, donc c'est plus intéressant ». Mais non, en fait, toutes les études qui sont faites d'une manière rigoureuse sont à prendre en compte, sont à mettre ensemble. Et ce n'est que du coup cette analyse statistique de ce qu'on sait par beaucoup d'études différentes sur beaucoup de personnes différentes qui peut nous dire effectivement de manière plus objective où nous en sommes.
Pour illustrer ce que vous dites d'un sujet qui n'a absolument rien à voir, c'était avec les anti-vax. Les gens vous racontaient des anecdotes disant « je connais quelqu'un, il s'est fait vacciner, et ensuite il a toussé, et ensuite il a été malade ». Et les statistiques montraient que le vaccin, d'une manière générale, améliorait grandement la situation. Je ne suis pas là en train de parler du vaccin, je suis en train d'expliquer la différence entre anecdotes et statistiques et raconter votre méthode scientifique de traiter ce sujet des médias. Et c'est en ça que c'est très important ce que vous écrivez et que c'est neuf. Dans l'intro, vous écrivez ceci. La diffusion des jeux vidéo, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, d'Internet et des réseaux sociaux dans la société se double de sentiments aussi forts qu'opposés. Quels sont ces sentiments opposés?
On l'a dit, d'un côté, il y a cette peur que les écrans soient en train de nous transformer, de nous rendre plus stupides. Alors souvent, on a peur que ça rende plus stupides les autres. Nous, on se sent un peu sauvés dans ces jugements. Donc, ça rend plus stupides nos enfants, par exemple. Incapables d'attention, incapables de compréhension, d'envie de lire ou de comprendre.
Bien sûr, donc, on avait reçu à ce micro, vous en faites une référence dans un chapitre, Bruno Patino, qui est le patron d'Arte, mais qui avait écrit cet essai très remarqué, La civilisation du poisson rouge, qui disait que l'attention maintenant des enfants était de 8 à 9 secondes, qui est celle d'un poisson rouge dans son bocal qui ne se rend pas compte qu'il repasse place au même endroit.
Et ben voilà, exactement. Alors, je suis désolée d'avoir à contredire ça, mais d'abord, on ne sait pas quelle est la tension des poissons rouges. C'est très difficile d'étudier la tension d'un poisson. Les poissons, ils font sûrement plus attention, mais même celle de nos enfants, elle n'est pas si limitée que ça. En fait, ce qui change ne sont pas, n'est-ce pas, le span d'attention, c'est-à-dire pendant combien de temps on est capable de rester focalisé sur quelque chose, l'attention elle-même, de façon structurelle, ce qui peut changer effectivement par des habitudes que l'on prend, c'est l'envie, le plaisir de faire attention. Donc, alors que les capacités attentionnelles restent les mêmes, probablement, elles ne changent pas, elles sont trop structurelles, trop incarnées dans notre cerveau. Ce qui change, c'est qu'on prend l'habitude à des choses courtes, rapides, frappantes, et que du coup, on y prend plaisir et le reste nous donne un peu moins de plaisir.
Je recevais il y a quelques jours une booktokeuse. Vous savez ce que c'est ? C'est des gens qui font des TikTok sur les livres et ça marche énormément et ça fait vendre des livres et des livres très sérieux et l'édition est très attentive à ce sujet. Elle était ici dans ce studio. Elle nous disait qu'il fallait que les gens soient attentifs au bout de 3 secondes. C'est-à-dire que c'est le tiers de la civilisation du poisson rouge et que si on captait pas l'attention des gens au bout de 3 secondes, en l'occurrence des jeunes, on était perdu. Ça devrait vous effrayer. Ça vous fait sourire?
Ça me fait sourire parce que je pense qu'on s'est fait peur un peu exprès pour inventer toujours des choses plus rapides qui vont plus vite. Mais qu'en réalité, voilà, la personne, elle vous disait qu'au bout de 3 secondes, on n'a plus d'attention, mais elle faisait lire des livres qui demandent une attention prolongée pendant
elle disait
des
pas
heures.
Ça. Elle disait, si au bout de 3 secondes, la personne n'est pas séduite, elle change de vidéo.
Mais parce que là, on s'est habitué à des moyens de transmission, comme le TikTok, qui ont cette structure-là. Donc, à ces moyens-là de transmission, à ce média-là, on demande cette rapidité. Mais ce ne veut pas dire qu'on n'est plus capable d'attention. C'est le média lui-même qui nous induit ce type d'usage, ce type de volonté d'usage qui est extrêmement rapide. Je n'ai pas envie de passer du temps sur TikTok, mais je vais m'investir sur un livre qui est intéressant. Donc là, je pense qu'on peut être un peu plus optimiste et aussi un peu plus moins inquiétant et transmettre un message moins inquiétant par exemple à nos enfants. Trop souvent, avec cette histoire de « il faut aller plus vite », c'est comme si on leur transmettait le message « mon petit, toi tu pourras jamais faire attention, désormais tu es né dans cet environnement où tout va vite et ton attention n'est plus la bonne. » Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais te préparer à faire attention, te donner le goût de l'attention, le goût de l'effort, ou est-ce que je vais moi-même simplifier tout ce que je vais te donner, baisser les demandes que je te fais jusqu'à ne te présenter que 2 lignes de tweets à la place qu'un livre.
Vous racontez que ces biais, n'en sont pas seulement victimes les enfants, mais aussi les scientifiques. Puisque je le rappelle, vous êtes une scientifique et vous dites, il y a quelque chose, il y a un biais cognitif qu'il faut presque dénoncer chez les scientifiques, c'est le cherry picking. Expliquez-nous cette notion. Qu'est-ce que le cherry picking?
Alors, ça c'est le terme qu'on utilise effectivement en science, c'est quand on a une thèse, une idée, une hypothèse, on a tendance à aller chercher là où cette hypothèse elle est confirmée, où on nous donne raison, on nous dit que tout va bien. Quoi.
Je vais traduire le cherry picking, c'est la cerise sur le gâteau, c'est on a le gâteau et on pique la cerise,
exactement,
la cherry.
On prend
la cerise.
Et donc on choisit le meilleur.
On prend ce qui nous intéresse.
Exactement, ce qui nous intéresse ou ce qui va dans notre direction. Et c'est une attitude qui n'est pas propre aux scientifiques, on l'a tous quand on lit quelque
bien
chose.
Bien sûr, mais moi ce qui m'a frappé en vous lisant, c'est que je pensais que les scientifiques n'étaient pas comme le commun des mortels et qu'eux ne cédaient pas à cette facilité. Et vous dites que si.
Alors, ils y s'adressent spontanément s'il n'y avait pas un système qui est le système justement de la science qui les empêche. Et ça, c'est la force de la science. Et comme vous le disiez, la force des statistiques de la science par rapport aux anecdotes. C'est-à-dire que la science a des règles. Tu ne peux pas le faire. Si tu fais ça, si tu ne cites que tes articles ou ce que tu aimes, tu vas avoir un collègue dans ton laboratoire ou dans un autre laboratoire concurrent qui va dire « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça ne se fait pas. » Il va te corriger. Et donc, la science dans son complexe a ce pouvoir d'auto-correction que nous, tout seuls, on n'a pas et on cède facilement à ces biais de confirmation. Que d'ailleurs, certains médias nous aident à renforcer. Quand Google nous propose, ou Amazon, si vous achetez des livres sur Amazon, il vous proposera toujours des livres qui vont dans la même direction, des livres que vous avez déjà achetés. Vous risquez pas de découvrir quelque chose de nouveau. On cherche à confirmer
exactement
ce que je vous voulais.
Si on est pro-nucléaire, on reçoit que des livres en faveur nucléaire. Et si on est anti, on reçoit que des livres sur les énergies renouvelables et fossiles d'ailleurs.
Et c'est d'ailleurs l'une des manières par laquelle, effectivement, Internet ou un certain usage des écrans influence nos pensées au sens de ne pas les changer, non pas les modifier, non pas nous persuader d'autre chose, mais malheureusement de nous confirmer toujours et toujours et toujours dans ce qu'on pense déjà, nous empêcher un peu de nous rendre plus difficile, de découvrir du nouveau.
La technologie a le bon goût du gâteau au chocolat, dites-vous, mais quel rapport avec le chocolat ? On marque une pause, on se prend un café, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-mêmes. Elena Pasquinelli est l'auteur de ce livre paru chez Odile Jacob. Je l'ai dit, c'est dans le chapitre 2. Il est intitulé « La technologie a le bon goût du gâteau au chocolat ». En quoi nos écrans sont-ils irrésistibles? Quel rapport avec le chocolat?
D'abord parce que j'aime le chocolat. Et donc c'est une métaphore qui me vient facilement. Mais des fois, on entend que nous aimons les écrans parce que les écrans nous ont transformés. C'est comme si on était des tabula rasa, que sans préjugés, sans préférences, et que l'arrivée des écrans avait créé le goût même pour les écrans. Alors, l'idée est qu'au contraire, les écrans, ils vont à la rencontre de nos préférences et de notre manière de fonctionner cognitive, des préférences de notre cerveau, tout comme le fait un gâteau au chocolat. Mmh. En fait, il y a une histoire ancienne de notre cerveau qui nous a façonnés. Nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, avaient intérêt à savoir reconnaître des substances, des aliments qui contenaient beaucoup de lipides, de sucre et de protéines, parce que cela leur permettait de survivre. Donc, on a inscrit dans notre cerveau ce goût pour les sucres et les protéines. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on n'a pas besoin de chasser le mammouth pendant des heures et des heures pour se nourrir de cela. On va au supermarché, tout est étalé sous forme de gâteau au chocolat. Mmh. Et voilà que le gâteau au chocolat est irrésistible parce que c'est la réponse moderne à un besoin très ancien, mais avec beaucoup plus de sucre que ce qu'on peut avoir avec un gâteau au chocolat, avec un mammouth, bien sûr.
Quelle est la réponse moderne d'une tablette ? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cerveau qui fait qu'elle a envie de swiper sur une tablette ou sur un portable?
Voilà, tout comme pour les lipides et pour les sucres, nous avons un goût, par exemple, pour les relations sociales et pour savoir qu'est-ce que les autres pensent de nous, qu'est-ce que les autres pensent des autres. Parce que dans un village, quand on vit dans un espace restreint, il est important de savoir qui est, qui compte et qui compte pas. C'est une question de survie. De même que c'est une question de survie de savoir reconnaître rapidement des stimuli qui peuvent être important, le tigre caché dans le feuillage, etc. Il est important aussi de savoir se repérer dans un environnement. Il est important de savoir résoudre des problèmes et trouver la cause de quelque chose. Or, ce sont des ingrédients que nous retrouvons dans les réseaux sociaux, tout ce qui est le gossip, le qui a fait quoi, avec qui, et qu'est-ce qu'on pense de moi, et combien de personnes m'aiment, ben on le retrouve et du coup notre cerveau réagit, notre cerveau ancien réagit à ce stimulus comme on réagirait à du sucre. Et c'est la même chose pour tous les stimuli attentionnels, les sons, les images, les histoires aussi.
Page 50, vous posez une question volontairement provocatrice mais absolument passionnante. Pourquoi n'avons-nous pas peur de l'addiction aux livres ? Des parents qui voient leur fils ou leur fille toujours devant l'ordinateur s'inquiètent. Ils la voient en train de lire, ils ne s'inquiètent pas. Au contraire, ils sont ravis, disent « ma fille, c'est formidable, elle lit toute la journée ». Pourquoi on n'a pas peur des livres ?
Exactement, parce qu'on a le livre est entré désormais dans un horizon de culture élevé où si on lit un livre, même si c'est un roman, même si c'est du Harry Potter, c'est quelque chose qui nous désigne comme intelligent. Si on passe du temps sur l'ordinateur parce que c'est nouveau, avec un jeu vidéo peut-être très intelligent, on ne donne pas la même impression. Mais si on va dans le passé, on a eu les mêmes polémiques autour des bandes dessinées, par exemple, qui étaient plus stupides que le livre.
Parents, dans les années 60, les parents qui interdisaient aux enfants de regarder la télé, et ils disaient, va donc plutôt au cinéma, c'est de la culture.
Absolument, et qu'avant, on interdisait aux filles notamment d'aller au cinéma parce que ce n'était pas un spectacle qui pouvait s'adapter à ce public. Après, c'est vrai que par rapport à un jeu vidéo ou à swiper sur Internet ou sur Twitter encore plus, un livre demande un effort. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de devenir book alcoolique, livre alcoolique, que de passer des heures et des heures juste à faire du swip sur Twitter parce que le livre a cette caractéristique d'être écrit, de demander une attention prolongée.
Vous avez une longue et profonde réflexion autour du concept de cyberdépendance. Ça existe ou ça n'existe pas ? Est-ce qu'y a-t-il vraiment, vous commencez en préambule ou en tête d'un chapitre, à raconter, soi-disant, ces jeunes hommes qui seraient morts pour avoir fait des marathons dans des webcafés en Chine, en train de jouer aux jeux vidéo, et vous doutez de la véracité de cette explication?
Bah oui, parce que effectivement, comme vous l'avez dit très bien au début, ce sont des anecdotes. Ah, une personne a passé 35 heures ou 72 heures devant un ordinateur, elle est morte. C'est une anecdote sur laquelle on a tout de suite, notre attention est captée, c'est une histoire, on peut s'imaginer la souffrance, etc. Mais ça reste une anecdote. Donc la question est de savoir si cette dépendance, elle est réelle ou pas, et combien elle est diffusée si elle est réelle. Or, si elle est du domaine de la psychiatrie, il y a des systèmes pour la détecter qui sont des questionnaires. Et c'est très difficile d'établir effectivement si cette pathologie après a un correspondant dans notre cerveau ou pas. Mais malheureusement, on utilise ce genre de terme d'une façon qui est non appropriée. C'est-à-dire qu'on sort du domaine de la psychiatrie et on parle de cyberdépendance pour le commun des mortels qui n'a pas une vraie pathologie liée aux écrans.
Ça va plus loin que ça, c'est plus qu'un mot, puisque je l'ai appris en vous lisant que la Chine a créé en 2005 la première clinique de lutte contre la cyberdépendance. Et vous détaillez les mesures qui étaient appliquées, certaines font froid dans le dos.
Absolument, et il y en a eu d'autres de cliniques de ce genre. Bon, en Chine, on s'est permis des choses effectivement qui sont assez effroyables pour déconditionner les enfants des écrans.
Racontez.
C'est des marches forcées en montagne, par exemple, qui sont absolument effroyables, mais aussi être renfermées comme des personnes incapables de penser, incapables de prendre des décisions, enfermées dans des espèces de goulags où on est isolé du reste du monde pour être reconditionné essentiellement. C'est des extrêmes, naturellement, des réactions qu'on a pu voir face à ces phénomènes.
On a parlé ici que d'une toute petite partie de votre ouvrage et de vos réflexions. Il y a une bibliographie à la fin, c'est en caractère neuf, c'est en tout petit. Il y en a 40 pages, c'est pour dire si à quel point ce livre est étayé. Pour finir, si ça pouvait se résumer, il y a quand même quelques bénéfices des écrans sur notre cerveau, et si oui, lesquels?
Mais bien sûr, sur nous et sur nos vies, et on les constate tout le temps. Ça nous permet d'avoir accès à de l'information grâce aux écrans. Je peux revoir, réentendre des émissions de radio, par exemple, si je les ai ratées au moment X. Donc,
mise en abîme totale, vous racontez que vous-même, vous avez fait vos recherches sur Internet.
Mais bien sûr, et personne ne peut échapper à ça. Et j'ai même, je pense, dans la préface de cette édition, remercier mes profs de yoga qui ont donné des cours sur Zoom pendant la période du confinement. Et heureusement qu'on a eu ce moyen pour se tenir en contact avec des personnes quand on était renfermés dans nos maisons. Donc, on ne peut pas démoniser ces outils. On doit apprendre à bien les utiliser.
Merci beaucoup, Elena Pascunali. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-mêmes ». C'est aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Toujours en direct, comme tous les vendredis, comme tous les jours, on est toujours en direct. L'actu et les coulisses du sport business, c'est Sacha Nokovic du journal L'Équipe qui arrive. Et puis on va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, on retrouve Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha.
Bonjour Philippe.
Vous allez nous raconter pourquoi le Mondial n'est pas un carton d'audience et comment Messi et Ronaldo ont détrôné sur Instagram un œuf. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Ça aussi, c'est neuf. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les étrangetés médiatiques, mais le vendredi, vous nous en faites le bilan. Et cette semaine, vous avez choisi de vous pencher non pas sur l'information, mais sur les réactions à l'information.
Oui, car en matière médiatique, Philippe, l'art du rebond est un art extrêmement délicat. Il peut être parfaitement à propos ou alors très à côté de la plaque. Et histoire que vous me compreniez tout de suite parfaitement bien, je vais vous donner deux exemples. Le premier est un exemple de réaction réussie. Vous savez que l'inflation fait rage dans notre pays et que le pouvoir d'achat passionne les médias. Alors, sur TF1 qui a lancé cette semaine son tant attendu late show, Alain Chabat a parfaitement compris la situation et a fait une proposition au poil.
Envie de vous acheter les vêtements qui vous plaisent? De vous déplacer dans un véhicule flambant neuf? De procurer à vos enfants les aliments dont ils ont besoin pour bien grandir? Et si on vous disait que c'était possible? N'attendez plus et essayez l'argent! Avec l'argent, dites adieu aux problèmes du quotidien.
Voilà, essayez l'argent, une suggestion épatante qui n'a du reste pas échappé au patron du CAC 40 qui ont visiblement pris l'idée d'Alain Chabat au pied de la lettre.
Une année record pour la rémunération des patrons des entreprises françaises.
Ceux du CAC 40 ont reçu 7,9 millions d'euros en moyenne.
Avec une mention toute particulière pour un certain Carlos Tavares.
Carlos Tavares, PDG de Stellantis, est loin devant, plus de 66 millions sur l'année, notamment grâce à un bonus jamais vu après la fusion des constructeurs automobiles PSA, Fiat et Chrysler.
66 millions d'euros pour l'année, bravo Carlos, qui devrait normalement pouvoir bien essayer l'argent. Une réaction à l'actualité donc parfaitement réussie, merci. Mais passons maintenant au contre-exemple, au rebond raté. Vous savez que mardi, une triste information était en une de tous les journaux.
Le choc après la mort d'un agent du fisc tué chez un brocanteur dans le Pas-de-Calais. Il effectue un contrôle fiscal.
Un contrôleur des impôts a été assassiné parce qu'il faisait son métier. L'Assemblée nationale s'est tue et a fait respecter une minute de silence. Mais sur France 3, dans un jeu qui s'intitule « Duel en famille », Cyril Ferraud, qui présente le programme, a vanté les gains qu'il offrait à ses téléspectateurs en ces termes.
Il est l'heure de jouer pour vous et rien que pour vous à la maison. Jouer pour quoi ? Pour gagner 5000 euros. 5000 euros à gagner. Ce soir encore, ils sont mis en jeu pour vous et rien que pour vous. Quand je dis rien que pour vous, c'est que les impôts, les contrôleurs des impôts, comme notre copain bleu, ils peuvent rien vous prendre.
Oups. Voilà, alors maintenant que vous avez bien compris le principe, je dois vous dire que les plus belles illustrations nous sont essentiellement parvenues cette semaine de la Coupe du Monde organisée par le Qatar. Alain Chabat, encore lui, a bien rebondi sur le contexte politique de l'événement en expliquant que présenter un late show était pour lui une vieille envie.
J'ai failli en fait il y a 4 ans, en 2018, mais bon, ça tombait en pleine Coupe du Monde en Russie, donc être associé à ça niveau image, c'était un peu touchy. Mais bon, là c'est au Qatar, donc tout va bien, franchement, ça va.
En revanche, le président de la FIFA, Gianni Infantino, lui, a un peu moins bien réussi son coup. Car juste après nous avoir régalé d'une belle réaction, la main sur le cœur au moment de la cérémonie d'ouverture.
Aujourd'hui, je me sens Qatari. Aujourd'hui, je me sens homosexuel.
Il a finalement interdit à tous les joueurs de foot de porter un brassard arc-en-ciel et ordonné aux réalisateurs des matchs de ne diffuser aucune réaction un tantinet hostile au Qatar, au point que la plus belle image des joueurs allemands a bien failli nous échapper.
La réalisation internationale ne vous l'a pas montré tout à l'heure. Au moment de la photo, les joueurs ont mis leurs mains devant leur bouche pour protester contre l'interdiction par la FIFA du brassard arc-en-ciel.
Bon, sinon vous savez que l'Arabie Saoudite a réussi un bel exploit et effectué des progrès considérables sur le terrain sportif.
C'est encore jouable pour l'Arabie Saoudite. Frappons Lopé ! Golasso ! Goal, 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 goal ! De l'Arabie Saoudite, on peut le dire, Omar, parce que ce but-là, il est venu d'ailleurs.
Elle a battu l'Argentine 2-1. En revanche, sur le plan politique, eh bien, on attend toujours les avancées démocratiques. Paradoxe parfaitement expliqué mardi soir par un Patrick Cohen très tranchant.
Réjouissons-nous et rappelons aussitôt que les exécutions capitales viennent de reprendre au Royaume saoudien après un moratoire de quelques mois. Ces 10 derniers jours, 17 hommes ont été décapités au sabre en Arabie Saoudite.
Quick, enfin pour terminer, Philippe, et puisque j'évoquais à l'instant un paradoxe difficile de ne pas vous dire un petit mot d'une splendide incongruité. Vous savez que toute la semaine, les médias nous ont régalé de leurs innombrables débats sur l'interdiction éventuelle de la corrida. J'ai du reste entendu une phrase absolument merveilleuse dans la bouche d'une vétérinaire interviewée par CNews.
Non, la corrida n'est pas de la torture. La corrida, c'est un protocole de fin de vie.
La corrida, un protocole de fin de vie. Eh bien, figurez-vous, Philippe, qu'après des heures d'antenne et d'affrontements sanglants entre les pour et les contre, le député de la NUP, Émeric Caron, a finalement renoncé à défendre son projet de loi. Eh oui, la montagne médiatique a accouché d'une souris politique. Alors la question, est-ce que ce monde est sérieux ? La réponse, cette semaine, m'a semblé quelque peu olé olé.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à lundi, bon week-end. Comme chaque vendredi, c'est Sport Média avec Sacha Nokovic. Votre programme, Sacha, je sens que vous allez nous parler Coupe du Monde.
Putain, vous visez toujours juste ça.
Mais
incroyable.
C'est ouf, hein, comment j'ai senti ça.
Coupe du Monde, oui, avec la clim dans les stades de Qatar, tout le monde s'en plaint, hein, les écolos, les journalistes, même les supporters. Mais les joueurs, eh ben, on a enfin posé la question à un Français hier en conférence de presse. Et puis Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont battu le record d'un 9 sur Instagram. Ça, c'est fort.
Mais pour commencer, on m'a envoyé un mail mercredi après l'emballement médiatique sur l'audience des Bleus face à l'Australie. Car pour vous, c'est loin d'être un carton.
Enfin, je ne vais pas quand même plomber l'ambiance absolument. On était quand même 12,5 millions hein, en France assistés au match. Mardi soir, ça donnait ça.
Mbappé, Giroud 51 Monsieur Giroud, le doublé, la passe décisive de Kylian Mbappé et Thierry Henry
qui voit son record égalé dès le premier match de cette Coupe du Monde.
Voilà, France-Australie, on l'a tous vu évidemment, hein, 4-1, meilleur démarrage sportif, meilleure audience de l'année. Mais Noël Le Graët s'est précipité dès le lendemain au micro de RTL, c'est président de la Fédération française de football, pour se réjouir de ce score.
Le record est battu hier soir, les bistrots, vous savez où les cafés étaient pleins, partout.
Attendez, le quoi, monsieur Le Graët ?
Le record.
Voilà, le record de l'année, ça c'est vrai. Hein. Mais on va quand même un peu comparer ce qui est comparable. On l'a dit plusieurs fois ici, pour la première fois, la Coupe du Monde, elle se joue en hiver. Donc il y a forcément plus de monde devant la télé qu'en été habituellement. Et puis les matchs ne jouent pas tous à la même heure, ni dans le même créneau de diffusion d'une édition à l'autre. Donc pour être le plus honnête possible, eh ben, il faut comparer la puissance médiatique des différentes Coupes du Monde avec les parts d'audience.
Part d'audience qui est donnée chaque matin par Médiamétrie, l'Institut de mesure, qui permet en effet de comprendre parmi les gens présents devant leur écran combien ont regardé un programme. Et vous avez raison, c'est plus honnête, ce qu'on appelle la part de marché.
Voilà, merci Philippe. Et bah de ce point de vue, le premier match des Bleus mardi a fait moins bien que le premier match des Bleus il y a 4 ans en Russie. Il a fait moins bien que le premier match de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Il a fait moins bien que le premier match du fiasco en 2010 en Afrique du Sud. En fait, je suis remonté à 1998. Et bien, en part d'audience, le match de mardi est tout simplement le moins bon score pour une entrée en liste des Bleus dans un mondial. Et pourtant, bah pour la première fois, Médiamétrie, dans son calcul d'audience, prend en compte le hors-domicile. Vous savez, quand vous allez au bar avec Bruno autour d'une bière pour voir le match, avant, on ne comptait pas ça. Et bien maintenant, c'est pris en compte les hôtels, les restaurants, les aéroports. Donc tout ça doit booster les scores, normalement. Bah pour l'instant, ça ne suffit pas.
Je rectifie une info avec Bruno Donnet, il regarde les concours hippiques. Pour les autres matchs, ça donne quoi ?
Bah, je ne vais pas non plus gâcher la fête des organisateurs du mondial au Qatar, mais j'ai pris par exemple le match d'ouverture Qatar-Équateur. Bah, toujours en part d'audience, ça fait moins bien qu'en 2018 ou en 2014. Et puis États-Unis, Pays de Galles, c'était lundi soir sur TF1. Et bah, c'était la pire audience historique pour un match de Coupe du Monde en prime time sur la chaîne. Donc pour parler de record, on va attendre un tout petit peu.
Le record.
Et alors, il y a certains téléspectateurs, c'était Noël Le Graët qui parlait, ont en effet annoncé qu'ils boycottaient ce mondial au Qatar. Et parmi les raisons, il y a notamment des considérations écologiques liées à l'usage massif de la climatisation dans les stades. Et même sur place, Sacha, les spectateurs se plaignent de l'envoi de la clim dans les tribunes.
Et tout type de spectateurs d'ailleurs. Mardi soir, toujours TF1, toujours France-Australie, le célèbre duo de commentateurs, Margot Thon-Lizarazu, a clairement fait passer le message en plein direct.
24 degrés d'ailleurs, sans climatisation, elle a été éteinte deux heures avant la partie.
Deux heures avant, je suis pas sûr parce qu'on l'a bien senti nous. On l'a bouché derrière nous.
Mais je vous confirme qu'elle marche encore hein, dans notre bureau, la climatisation.
Voilà, hein, même quand Lisa bouche les aérations, bah, ça caille. Et au début, cette clim elle faisait forcément débat. Elle devait réguler les fortes températures du Qatar. Bah, sauf qu'en ce moment, dans l'Émirat, il fait entre 20 et 28 degrés. Donc franchement, bah, tout le monde pourrait largement s'en passer de cette clim. Mais quand on demande au Qatar ou à la FIFA bah, qui appuie sur le petit bouton de la clim avant chaque match, bah, personne ne répond. C'est la faute de personne. Personne n'est coupable. C'est beaucoup plus simple comme ça.
Et les joueurs, ils en pensent quoi ?
Bah, justement, j'étais surpris de voir aucun joueur réagir depuis le début de la semaine sur ce sujet. Donc on a eu la gentillesse du côté d'Europe 1 et de Cyril de la Morinerie, d'interroger hier en conférence de presse le français Matteo Guendouzi.
Moi ça me dérange vraiment pas, je dors même avec, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là et honnêtement sur le terrain on la sent pas forcément, donc nous de notre côté en tout cas c'est très agréable comme ça.
Bah évidemment il court, très agréable pour les joueurs mais pas toujours très éco-responsable. Pour finir Sacha, vous avez été marqué par une publicité historique sortie ces derniers jours par Louis Vuitton spécialement. Pub sortie spécialement pour cette Coupe du Monde.
Oui, avec Cristiano Ronaldo qui est entré deux fois dans l'histoire cette semaine. D'abord hier soir, grâce à ça.
Cristiano Ronaldo, c'est parti. Ronaldo, il y est. Cristiano Ronaldo, 1-0 pour le Portugal.
Avec son but face au Ghana, voilà le Portugais, le seul joueur à avoir marqué dans 5 Coupes du Monde différentes. Ça, c'est historique, mais Cri-Cri d'amour est aussi entré dans l'histoire des réseaux sociaux et d'Instagram cette semaine en dépassant le cap des 500 millions d'abonnés à son compte. C'est quand même pas mal. Et c'est lié, vous l'avez dit, à cette publicité sortie par Louis Vuitton pour la Coupe du Monde, qui a boosté un peu la notoriété de Ronaldo, puisqu'il y apparaît face à une autre légende du foot. Vous l'avez entre les mains, Philippe, cette photo.
Lionel Messi, et je la montre aux gens qui nous regardent et nous écoutent sur Europe1.fr.
Voilà, face à Messi, son meilleur ennemi, et les deux joueurs jouent aux échecs sur la malle de la marque de luxe, la fameuse malle qui transporte, vous savez quoi ?
La Coupe du Monde ?
La Coupe du Monde, le trophée, bien sûr, c'est bien vu. Bah, le cliché il a été pris par la célèbre photographe Annie Leibovitz et avec plus de 75 millions de likes, cette photo a elle aussi battu un record, celui du nombre de j'aime, de likes sur Instagram. Alors je pensais que moi, Cri-Cri et Messi avaient dépassé, je ne sais pas, Kim Kardashian, Justin Bieber ou un autre. Eh bien non, ils font plus fort qu'un œuf. Et oui, c'est cet œuf que je montre aussi aux auditeurs d'Europe1.fr. Il avait généré en 2019 plus de 55 millions de likes. Œuf tout à fait basique, hein, j'ai pas trop compris le délire. Enfin, il était détrôné par nos deux vedettes. Et pour être précis, bah, Messi et Ronaldo n'étaient pas présents en même temps, hein, lors du shooting de la photo que vous avez montré. Il a fallu faire un petit montage pour les rassembler. Bah, oui. Un jour peut-être. Hein. Mmh. Et si on a le temps, bah, Philippe, je voulais vous dire que sur la photo la même, la disposition des pièces de la partie d'échecs entre Ronaldo et Messi, bah, elle n'est pas due au hasard. Elle fait référence à une partie de 2017 entre deux maîtres des échecs, Magnus Carlsen et Hiraku Nakamura. Partie qui s'était terminée par...
Un coup franc à 30 mètres.
Un match nul.
Bien vu, un match nul.
Bruno Donnet.
C'est comme Philippe et Bruno Donnet, on ne départage pas les légendes.
Voilà. Merci beaucoup Sacha. Vendredi prochain, d'ici là, on peut vous lire évidemment dans l'équipe. Bien sûr. J'ajoute que la saison 2 du podcast de Jacques Vendroux, Les Géants, est disponible sur toutes les plateformes. Ça retrace les grandes aventures qui ont marqué le foot français. Jacques Vendroux, qui est évidemment, d'abord, il est formidable et il est surtout au Qatar. C'est Europe 1, radio officielle de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup. Merci Bruno, merci Sacha. Culture Média, ça continue sur Europe 1. Dans un instant, les infos de 10h. Nos invités, musiciens, chanteurs, Yvan Kassar et Lou Chédid, nouvel album qu'ils ont fait ensemble. Ça s'appelle En Noirs et Blanches, duo inédit des chansons, des standards de Lou Chédid, mais en version piano-voix. Et puis dans les indispensables, deux incontournables, L'œuf maillot et Black et Mortimer. On sera avec Nicolas Carreau et Laurent Mariotte et Jean-Luc Lemoine qui nous rejoint pour sa session de rattrapage. A tout de suite.